Vous l'aviez vu d'ailleurs probablement sur vos feuilles, il s'agit de la vie morale et des préceptes de l'Église. Alors c'est pas le thème préféré, puisqu'aujourd'hui parler de vie morale, de loi morale, c'est assez mal perçu. Hein. Tout le monde, c'est un phénomène de société, tout le monde aime son indépendance. C'est déjà présent dans la nature humaine, hein, qui, à partir du péché originel, qui a voulu prendre son indépendance et donc ne plus avoir de leçons à recevoir de quiconque, ni de la nature, ni de Dieu, enfin en premier de Dieu, ni de Dieu et ensuite ni de la nature. Mais aujourd'hui, on est dans une situation particulière, puisque avec l'indépendance qui se développe chez nos contemporains, eh bien, là, carrément, on veut vraiment trouver une autonomie absolue, donc y compris vis-à-vis de la nature qui nous entoure. Hein, donc, désormais, l'homme ne veut plus avoir à recevoir de personne sa règle de vie. Alors, donc, ça rend plus difficile de parler de ce sujet. Alors, on est obligé de le mettre vraiment dans le contexte général de notre foi chrétienne. Évidemment que notre foi chrétienne, c'est d'abord la rencontre avec Dieu, avec un Dieu qui nous aime, avec un Dieu qui nous a créés, qui nous a fait par amour, et puis un Dieu qui est un Père. Et donc, une fois qu'on a redécouvert ça en tant que chrétien, eh bien ensuite, on peut de nouveau se demander ce que notre Père attend de nous, hein, comme n'importe quel Père bon, hein, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de nous. Hein, donc, on peut approcher de cette manière-là la question de la vie morale. En tout cas, le jeune homme qui s'approche de Jésus lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Et Jésus répond « Observe les commandements. Hein, » dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Et puis Jésus dit aussi dans l'évangile de Jean, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Alors voilà, donc que sont ces commandements que le Seigneur nous donne et est-ce que nous les vivons? Il nous faut repartir du départ, de la création. Et ce qui est très intéressant, c'est que même dans les découvertes scientifiques récentes, on voit que les scientifiques découvrent que la création, ce que nous appelons la création, que l'univers entier, dans ses fonctionnements, est régi par des lois. Hein, je ne sais pas si vous avez lu un certain nombre d'articles et de livres sur ce sujet, mais il y a 10 grandes lois qui s'appliquent à l'univers. Si une de ces règles avait été légèrement différente d'un point de vue mathématique, hein, avec un chiffre différent après la virgule de je ne sais pas combien, eh bien, il n'y aurait pas eu la vie. C'est pour ça qu'après, un certain nombre d'athées vont dire, ben oui, mais en fait, la solution, c'est qu'il y a des mondes parallèles avec des lois différentes dans chaque monde, comme ça, nous, on est dans le monde où il y a la vie, parce que ça, on tombe dessus, évidemment. Mais bon, voilà, ça reste des trucs, on tire la ficelle comme on peut, mais en tout cas, c'est étonnant, et c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de scientifiques qui sont déistes, hein, à défaut d'être chrétiens, qui croient en Dieu, parce que ils sont émerveillés devant l'ordonnancement de la nature et comment s'est créé, comment est régi notre univers. Donc il est régi par des lois lui-même. Hein, c'est ces lois qui ont permis de s'organiser et de faire naître la vie. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu crée le monde. Il part du chaos pour créer le cosmos. Le chaos, c'est quelque chose qui n'a pas de loi, mais qui va s'organiser pour devenir le cosmos. Et donc c'est déjà le Seigneur, par sa création, il y a des lois dans la création qui s'appliquent, que personne ne discute et que personne ne discutera, que l'homme peut découvrir par sa recherche. C'est ce qu'on appelle les lois éternelles. Ainsi, l'univers devient cohérent, et puis, dans cet univers, l'homme peut exister. Voilà. De cette loi éternelle, différentes lois en sont issues. Donc chaque élément qui la compose va suivre des lois propres à chaque élément de cette création, de cet univers. Donc les éléments animés, alors on le sait, vont être régis par les lois physiques de la nature. Les scientifiques vont les découvrir progressivement, mais ils n'ont pas fini encore. Et puis les formuler, ça va être source d'émerveillement ou bien d'interrogation. Voilà. Ces lois ont été mises en place par le Créateur, évidemment. C'est vraiment le Créateur qui a voulu cela dès le départ pour permettre aux astres d'évoluer dans l'univers. Voilà. Et les scientifiques, en découvrant ces lois, vont pouvoir prévoir les évolutions futures de notre univers, puisque ces lois vont continuer à s'appliquer au fur et à mesure du développement du temps qui passe dans l'univers. Alors on peut le voir, bien évidemment, avec les événements en astrologie, en découvrant les astres, ou bien même au niveau de la nature, les climats, etc. Donc il y a les éléments inanimés qui vont être dirigés par ces lois, il y a les éléments animés, donc qui sont la végétation, et puis la faune et la flore, on va dire, et qui vont être régis par d'autres lois, qui sont aussi des lois qui s'appliquent. Les plantes vont pousser selon certaines règles, et puis les animaux, eux, vont aussi avoir en plus l'instinct qui va les guider. Un animal, de façon habituelle, va plutôt tuer pour vivre, enfin un animal carnivore, tuer pour vivre, pour manger. Bon, il peut arriver qu'il y ait des dérèglements. On sait pourquoi, on y reviendra dans un instant, mais en tout cas, globalement, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Et puis, enfin, au sommet de cette création, eh bien, il y a l'homme qui, lui, il va avoir ses lois propres, donc des lois de la nature qu'on respecte de façon habituelle, comme par exemple le fait qu'on est obligé de manger pour vivre et qu'il ne nous viendrait pas l'idée d'arrêter de manger en disant qu'on va continuer à vivre quand même, ou bien d'arrêter de boire, parce qu'on sait que ça fait partie de notre fonctionnement biologique. Mais il y a aussi, c'est aussi plus compliqué pour l'homme, puisque en plus, Dieu a voulu que l'homme ait une dimension de liberté qui puisse exprimer, de suivre ou de ne pas suivre le plan du Créateur, à la différence de la nature et bien sûr de tous les éléments inanimés. Donc Dieu va respecter sa liberté. Et c'est là que ça devient plus compliqué pour l'homme, si on peut parler comme ça, mais c'est parce que nous avons cette liberté que nous sommes invités à utiliser. Et donc Dieu va se contenter d'inviter les hommes à le suivre dans sa volonté par un concours de notre liberté. Donc c'est ce qu'on appelle la loi naturelle morale naturelle. Puisqu'avant, il y avait la loi éternelle, des fonctionnements de la nature, puis là, la loi naturelle, morale. Alors, elle a cette caractéristique, cette première règle, donc on avance, elle s'applique à l'homme, et elle a cette caractéristique, c'est que elle ne s'impose pas de façon absolue, mais pourtant l'homme, par sa raison, qu'il soit croyant ou non, peut la découvrir. Il y a quelque chose qui est... Que l'homme porte en lui. Par exemple, quand il tue quelqu'un, il sent bien, de façon normale, habituelle, que c'est pas bien. Donc c'est quelque chose qui est quand même inscrit dans le cœur de l'homme, et l'homme peut le découvrir par lui-même. C'est pour ça que l'Église, quand elle donne un certain discours sur le mariage, par exemple, ou des choses comme ça, ça fait partie des lois naturelles, morales, naturelles, eh bien... elle dit que, comme c'est une loi naturelle, on n'a pas automatiquement besoin de la foi pour découvrir, donc c'est tous les hommes qui peuvent découvrir ça. Et donc, elle a cette caractéristique, c'est que la loi naturelle, elle est universelle, donc elle s'applique à tous les hommes peuvent la trouver par leur réflexion, et puis elle est immuable, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les temps. Donc, vers Saint-Jutoris. Nous avons les mêmes règles et nous pouvons les découvrir nous-mêmes de la même manière. Nous sommes faits de la même manière, donc Voilà. Donc on peut découvrir par soi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, ensuite, vient le Seigneur va commencer à se révéler au monde par l'Ancien Testament, à travers le premier livre, à travers la Sainte Bible, l'Ancien Testament, et parce que, en fait, si l'homme peut découvrir par lui-même la loi naturelle, eh bien, il n'empêche qu'il est abîmé par le péché, et ça perturbe sa perception des choses. De même qu'on peut dire que, à cause de ce péché, c'est-à-dire l'introduction du mal dans la création, il y a une perturbation qui va dépasser même la vie humaine, mais qui va toucher la nature. C'est pour ça qu'il peut y avoir des dysfonctionnements dans la nature aussi, hein, qui sont des conséquences aussi du péché et du mal. Mais, en tout cas, l'homme lui-même, il peut découvrir par lui-même ce qui est bien et mal, mais en même temps, il est perturbé par son propre péché, surtout dans une époque comme la nôtre, où il n'y a plus de notion de péché, plus de conscience du péché. Et donc, en fait, on va pouvoir appeler bien ce qui est mal. Et donc, ça crée encore une perturbation plus forte, ça met de la confusion, ça met du brouillard dans notre vie, y compris pour nous, qui pourtant sommes croyants. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on n'a pas le choix en fait, on est de notre époque. Et donc on est influencé par la culture ambiante. Alors évidemment, en tant que chrétien, on va cheminer et on va se laisser éclairer par la révélation divine. Et que dit cette révélation? Donc déjà dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament va nous redonner la loi naturelle de façon très très claire, à travers les 10 commandements. Et ainsi, le Seigneur, à travers tout cela, le Seigneur va chercher à rééduquer, va nous aider à rééduquer notre conscience. Ce qui fait que, de fait, quand on est croyant, qu'on accueille la révélation, et qu'on accueille le message de l'Ancien Testament dans sa totalité, car un truc très important aussi, c'est qu'on ne peut pas prendre un des 10 commandements en disant « celui-là c'est important, les autres je m'en fiche ». Parce que dès qu'on touche un, c'est tout l'édifice qui se détruit. Dès qu'on néglige un commandement, c'est tout l'édifice. En fait, et c'est valable de façon générale pour la vie chrétienne, pour les vertus, c'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours travailler pour accueillir l'ensemble du message et pas simplement une partie. Hein. C'est une des choses que le pape François a aussi rappelé, c'est qu'il ne faut jamais, aujourd'hui, par exemple, les médias fonctionne par des petits trucs, des petits messages sur une actualité qui déforment tout le message, qui déforment tout. Et parfois, on peut être complètement désinformé à cause de cela, parce qu'il n'y a plus du tout de vue d'ensemble. Or, le Seigneur nous invite vraiment à accueillir l'ensemble de la révélation et l'ensemble des 10 commandements, donc au stade où nous en sommes, hein, dans mon petit exposé. Et donc ainsi, le Seigneur va rééduquer notre conscience. Il va nous aider à sortir aussi du péché et à redécouvrir le bien et le mal. Dans l'Ancien Testament, et chez les pères de l'Église aussi, donc c'est toujours valable aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, il y a toujours la voie du bien, la voie du mal, les deux voies, la théorie des deux voies. Et puis le Seigneur, il dit, ben voilà, tu as les deux voies devant toi, choisis la vie. La voie du bien, c'est la voie de la vie. Choisis la vie. Mais choisis. Exercice de la liberté, choix d'adhésion, choix de se mettre en chemin. À travers ces commandements et cette révélation, eh bien, le Seigneur nous permet d'affiner notre conscience, de purifier notre conscience, de purifier notre perception, de pouvoir... je disais tout à l'heure qu'on grandissait dans un contexte culturel particulier, donc avec ses côtés positifs mais aussi ses côtés négatifs, bien purifier c'est ce qu'on a reçu. Tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon. Donc purifier, de pouvoir faire grandir notre oreille intérieure pour mieux discerner les choses. Donc voilà, les 10 commandements, le décalogue, je les rappelle, vous les connaissez. Les trois premiers commandements concernent notre relation à Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'aimeras plus que tout. Le deuxième, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Le troisième, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alors, on sait déjà que ces trois premiers peuvent être très malmenés dans un contexte d'une société qui veut s'affranchir complètement de Dieu. Ensuite, les sept suivants concernent notre relation au prochain. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. Tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. Voilà. Alors on va reprendre brièvement chacun de ces 10 commandements, puisque c'est une base importante, hein, qui est la loi naturelle, hein, qu'on peut redécouvrir par soi-même, mais que la Bible nous permet de mieux percevoir clairement, de percevoir plus clairement. Donc, vous, bien évidemment, vous retrouvez ça dans le catéchisme de l'Église catholique, et en particulier, là, pour ce que je vais dire, vous retrouvez ce condensé dans ce qu'on appelle le compendium de l'Église catholique. Je n'ai pas apporté, c'est un petit livre, hein, qui résume un peu tout le catéchisme. Voilà. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'aimeras plus que tout. Cela implique de prier. C'était mon thème de ce matin. Parce qu'il faut commencer par ça. C'est le premier commandement. Le prier dans la louange, l'action de grâce et la supplication, de lui offrir des sacrifices, avant tout le sacrifice spirituel de notre vie, un sacrifice uni au sacrifice parfait du Christ. Alors ce commandement, il proscrit, il demande il proscrit, à l'inverse, donc le polythéisme, d'avoir plusieurs dieux, l'idolâtrie, qui est beaucoup plus fréquente qu'on pense, parce que l'idolâtrie, c'est diviniser autre chose que Dieu. Ça peut être une créature, ça peut être le pouvoir, ça peut être l'argent, voire même, dans des cas extrêmes, le démon. Ce commandement proscrit aussi la superstition, hein, qui est une déviance du culte due au vrai Dieu et qui s'exprime encore sous diverses formes, donc la divination, la magie, la sorcellerie, le spiritisme, donc des recherches non chrétiennes, j'allais dire, mais pas uniquement non chrétiennes, non judéo-chrétiennes de Dieu, hein, donc par tous les moyens, puisque le monde spirituel est un monde ouvert, c'est pas un monde fermé, et donc même des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui savent que Jésus est vraiment Dieu, mais qui en même temps n'adhèrent pas à son message, peuvent entrer en contact avec le monde spirituel. Donc on peut faire un peu n'importe quoi aussi dans ce domaine. L'irreligion, hein, qui s'exprime par l'action de tenter Dieu, par des paroles et par des actes, par le sacrilège, des personnes et des choses sacrées, surtout de l'Eucharistie, par la simonie, c'est-à-dire par acheter des actes spirituels contre de l'argent. Voilà. Acheter ou vendre. Ensuite, donc, ça proscrit aussi ce premier commandement, l'athéisme, qui rejette l'existence de Dieu, évidemment. Et puis l'agnosticisme, qui est très à la mode à notre époque, selon lequel on ne peut rien savoir sur Dieu, de Dieu. Or, il se trouve que l'homme, naturellement, est religieux. Naturellement, il est capax dei, comme dit saint Augustin. Naturellement, l'homme peut dire, ben oui, Dieu existe. Le deuxième commandement, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. On respecte le saint nom de Dieu en l'invoquant, en le bénissant, en le louant et en le glorifiant. Mais jamais, dans le blasphème, dans les jurons, et une infidélité aux promesses faites au nom de Dieu. Quand on a un engagement qu'on a fait devant Dieu, eh bien, on le tient. Troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Donc le jour du Shabbat, le peuple de l'ancienne alliance fait mémoire de la création et du repos que Dieu a au septième jour de la création. C'est aussi pour eux aussi l'occasion de se souvenir comme une anticipation de Pâques de la grande libération de l'esclavage d'Égypte. Pour le chrétien, ce repos, ce jour de repos a été transféré dans l'histoire au dimanche. Au début, les chrétiens essayaient de vivre un peu les deux. A été transféré au dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Dies Domini, hein, c'est l'origine du nom dimanche, du mot dimanche en langue française. Voilà, et donc c'est un lieu, un jour de sanctification. Pour le chrétien, la sanctification du dimanche se fait en premier lieu par la participation à l'Eucharistie et en s'abstenant aussi d'activités qui empêchent le culte à Dieu, donc soit dans un travail rémunéré, soit dans des activités qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Par contre, par exemple, tous les actes de charité dont on est invité, l'aumône dont on est invité à vivre en carême, là, on peut le vivre le dimanche, c'est pas un problème. Hein. On peut même être généreux ce jour-là, dans notre service aux frères, de ceux qui sont seuls et tout ça. Ça, faut pas se gêner, faut même se fatiguer pour ça, c'est très très bien. C'est une différence par rapport au Shabbat juif, qui est vraiment l'absence d'activité. Hein, puisque c'est le repos pour lui-même. Tandis que là, chez nous, on a le repos, en même temps, l'acte de charité qui reste, le service qui reste toujours une grande, grande, une des grandes valeurs qu'on va voir que Jésus va nous faire découvrir de façon forte. Quatrième commandement. Donc là, on passe dans les commandements qui sont en rapport à nos frères, en rapport aux autres. Honore ton père et ta mère. Donc, là, on voit que dans la loi naturelle, voilà, ton père, ta mère, un homme, une femme. Les enfants doivent respect, piété filiale, reconnaissance, docilité, obéissance à leurs parents, contribuant ainsi, par de bonnes relations entre frères et sœurs, au progrès et à l'harmonie et à la sainteté de la vie familiale. Si les parents se trouvent dans une situation d'indigence, de maladie, d'isolement et de vieillesse, les enfants, adultes, doivent leur fournir le soutien moral et matériel. C'est très présent encore dans certaines sociétés. Beaucoup moins, enfin ça l'est encore un peu, mais beaucoup moins chez nous, puisque maintenant on a c'est la société parfois qui prend en charge nos parents, pas complètement. Hein. Voilà. Les parents de leur côté participant à la paternité divine sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Enfin, d'abord eux qui éduquent les enfants, et puis les premiers à leur annoncer la foi. C'est pas l'école d'abord, c'est d'abord les parents. Cinquième commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Alors là, c'est évidemment, c'est un peu. La vie humaine, c'est sacré. On ne peut pas détruire la vie humaine de personne, sans exception. Il n'y a pas d'exception. Ce cinquième commandement interdit comme gravement contraire à la loi morale, donc bien sûr l'homicide, hein, direct et volontaire, parce qu'on peut tuer quelqu'un par accident, par exemple, ça peut arriver, hein, je connais des gens qui, par un accident de voiture, par exemple, donc direct et volontaire, ainsi que la collaboration avec un homicide. L'avortement, bien sûr, direct, en particulier, hein, il peut y avoir même des mamans victimes, hein, qui sont complètement sous une pression terrible, et qui finalement sont plus victimes que coupables. Donc l'avortement direct, recherché comme fin et comme moyen, ainsi que la coopération à cet acte. Alors, juste pour dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le pape, dans l'avion, quand il est revenu du Mexique, dans l'avion, il a parlé de l'avortement, parce qu'on lui a posé des questions. Alors, je ne sais pas ce que les médias ont trop retenu, mais moi, j'ai écouté les interviews, j'aime bien, parce que c'est assez intéressant, il parle un peu à bâton rompu, hein, ce n'est pas du magistère très élevé, puisqu'il y a différents degrés de magistère. Hein. C'est un magistère ordinaire qui s'exprime comme ça. Il peut y avoir même des erreurs de formulation, tout ça, c'est pas. Mais bon, les idées sont intéressantes. Et donc, il dit ça sur l'avortement. Il dit, mais l'avortement, c'est vraiment un crime et on ne peut pas le relativiser, c'est impossible. C'est tuer quelqu'un pour faire vivre quelqu'un d'autre. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, la mafia fait la même chose. Elle tue des hommes pour faire vivre d'autres. C'est la même chose. Il dit il faut vraiment prendre conscience de la gravité de cet acte. Voilà, donc il faut vraiment agir et aider les personnes. soit qui l'ont vécu, soit qui sont victimes d'une manière ou d'une autre, et puis éclairer les consciences. Donner des vraies solutions, parce qu'il ne s'agit pas de condamner, il s'agit d'aider, de servir notre société. Alors l'euthanasie aussi, hein, qui est bien sûr interdit, l'euthanasie directe consiste à mettre fin par un acte ou par une omission d'action, hein, c'est-à-dire on laisse les gens mourir sans les soutenir. C'est pour ça que pour l'Église, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir en lui supprimant de l'eau. Ça arrive parfois, par déshydratation. Voilà. Donc il y a, voilà, pour les malades, les handicapés ou les personnes proches de la mort. Puis bien sûr le suicide et la coopération à celui-ci. Alors ça peut être aggravé, tout ceci, la responsabilité peut être aggravée par les contextes ou bien atténuée. Il ne s'agit pas de condamner les autres, il s'agit de savoir ce qu'est la loi naturelle, l'intégrer dans notre vie. Voilà. Donc ça peut être aggravé en raison de scandales ou diminué par des troubles psychiques ou des problèmes graves que les personnes vivent. C'est pour ça que maintenant l'Église accepte que des gens qui ont choisi de mettre fin à leur vie par le suicide, eh bien, puissent quand même passer à l'Église, parce qu'on a conscience que, en fait, il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas chez ces gens-là, c'est la détresse qu'il peut y avoir et les problèmes psychologiques qu'il peut y avoir. Donc l'Église les accueille et prie pour eux. Voilà. Le sixième commandement, c'est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Alors, vous savez ce que c'est. Tous les baptisés suivant le Christ, modèle de la chasteté, sont appelés à mener une vie chaste. La chasteté est l'intégration réussie de la sexualité dans la personne. Donc, la chasteté est commune à tous les hommes. Et ceci, chacun selon notre état de vie, selon nos situations personnelles. Les uns en vivant la virginité ou le célibat consacré, donc une continence absolue. Les autres dans le mariage en pratiquant une chasteté conjugale. S'ils ne sont pas mariés, en vivant la chasteté dans la continence en attendant le mariage. Alors, normalement, je vous dis les choses très vite, que le temps passe. Bon, sont considérés comme des péchés graves, contraires à la chasteté, chacun selon la nature et son objet, donc l'adultère évidemment, la masturbation, la fornication, qui est le fait de partir un peu partout, la pornographie, la prostitution, le viol et les actes homosexuels. Donc il y a tout ce que la nature nous propose, et puis, enfin, que nous invite à vivre, et puis il y a toutes les déviances qu'on peut trouver qui sont des péchés graves. Le septième commandement, tu ne commettras pas de vol. Donc là aussi on comprend très bien ce que ça veut dire. Donc il nous demande vraiment un respect des promesses et des contrats stipulés, parce que bon, il y a le vol en tant que tel, hein, chaparder quelque chose à quelqu'un d'autre, mais il y a aussi, il faut élargir un peu les perspectives, le respect des promesses et des contrats stipulés, parce que nous, on a un engagement, c'est un engagement, la réparation de toute injustice commise et la restitution des biens volés, hein, donc une vraie demande d'honnêteté, le respect de l'intégrité de la création. Très intéressant. Hein, grâce à un usage prudent et modéré des ressources minérales, végétales ou animales. Alors là, on est tout à fait dans le truc écologique, mais c'est vrai que là, par exemple, vous êtes sans doute au courant que actuellement, le grand péril pour l'humanité, c'est le manque d'eau potable. Or, chez nous, on a avec les étudiants, par exemple, des conversations, parce que, non pas que ça va avoir un effet immédiat, mais chez nous, on peut consommer, nous, on a toute notre eau est potable, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, même dans les pays développés, hein, mais on peut être très, très gaspillé énormément. Donc voilà, donc et le pape Benoît XVI avait invité vraiment les chrétiens à rechercher une sorte de sobriété, de mode de vie. Donc pour sortir du gaspillage, et c'est vrai que c'est un appel qui nous est lancé et qui est de plus en plus fort. Le septième commandement, donc tu ne commettras pas de vol, interdit avant tout le vol, qui consiste à l'usurpation des biens d'autrui, contre la volonté raisonnable du propriétaire, bien évidemment. Il en va de même dans le fait de payer un salaire injuste, de spéculer sur la valeur des biens pour en tirer un avantage au détriment d'autrui, donc de rouler quelqu'un, soyons clairs, de faire des contrefaçons, des chèques et des factures, de contrefaire des chèques et des factures, voilà, de rouler. Il est interdit en outre de commettre des fraudes fiscales, même si la fiscalité est élevée, ou commerciale, d'infliger volontairement un dommage aux propriétés privées ou publiques, y compris publiques, de pratiquer aussi l'usure, la corruption, l'abus privé de biens sociaux, les travaux mal exécutés de manière consciente, le gaspillage. Voilà. Bon, là, j'ai tout dit en résumé. Tu ne commettras pas de faux témoignage contre ton prochain. C'est le 8e commandement. Je me dépêche un peu parce que je vois que ça passe quand même. Parce qu'il faut quand même que je parle des commandements de Jésus. Les commandements de l'Église. Voilà. Tu ne commettras pas de faux témoignage contre ton prochain. Donc, il demande le respect. C'est la demande du respect de la vérité. Donc, la recherche permanente de la vérité accompagnée de la charité. Donc, c'est dans la communication de l'information, de façon, il ne s'agit pas de tout dire, mais il s'agit de ne pas cacher pour cacher. Il s'agit du respect de la vie privée, de la discrétion quand il y a risque de scandale, du respect du secret professionnel, qui doit toujours être sauvegardé, c'est un engagement. Sauf qu'à déception, voilà, et aussi requis le respect des confidences faites sous le sceau du secret. Vous savez que parfois on dit que si on veut que quelque chose se sache, il suffit de dire à quelqu'un bien choisi, on dit je te lis le truc et tu le dis à personne. Comme ça tu es sûr que tout va circuler. Donc voilà, mais non, il ne faut pas. Il ne faut pas le dire. Voilà, il faut garder pour soi, quand on nous demande sous le sceau du secret, il faut le garder pour soi. Alors, le 8e commandement interdit les faux témoignages, le mensonge, évidemment, le jugement téméraire, de juger trop vite autrui, ça c'est important aussi, la médisance, la diffamation, la calomnie, qui détruit la réputation des autres, qui est très destructeur, et parfois aussi destructeur que ça peut mener à la mort. On peut détruire les gens tellement bien qu'à la fin, ils n'ont plus qu'à mourir. Ensuite, ça interdit aussi la flatterie, l'adulation et la complaisance. Donc c'est bien, c'est le péché inverse, les excès. Vous savez que la vertu, en régime chrétien, c'est le juste milieu, toujours. Donc les excès sont à éviter. Neuvième commandement, tu n'auras pas de désir impur volontaire. Ce 9e commandement nous invite à vaincre la concupiscence charnelle dans les pensées et les désirs. Parce que malheureusement, par le péché, nous avons des comportements un peu désordonnés. Donc ça passe par la purification du cœur et la pratique des vertus de tempérance. Voilà. Le 9e commandement interdit de cultiver les pensées et les désirs concernant des actes défendus dans le domaine du 6e commandement. Donc, tout ce qui est du domaine de la concupiscence. Voilà. Il exige la recherche de la pudeur et de protéger l'intimité des personnes. Un vrai respect de l'autre, en fait. Il exprime la délicatesse de la chasteté, règle le regard et les gestes. Il libère de l'érotisme ambiant et tient à l'écart tout ce qui favorise la curiosité malsaine. Elle requiert aussi la purification, une purification du climat social par un combat soutenu contre la permissivité des mœurs qui repose sur une conception erronée de la liberté humaine. Donc voilà, qui au final ne respecte plus les personnes. Voilà. Le dixième commandement, tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. Donc il interdit l'avidité, la jalousie, hein, la convoitise effrénée de bien d'autrui, l'envie, qui traduit la tristesse éprouvée devant les biens d'autrui et le désir immodéré de se les approprier. Hein, donc là, le désir d'avoir ce que les autres possèdent. Donc là aussi, voilà, tout ça, ce sont des commandements qu'on peut découvrir naturellement, mais que la Bible nous donne de façon très claire. Donc ces 10 commandements nous aident à rester dans la volonté du Seigneur. Ce sont, si on peut prendre une image, ce sont un peu comme des garde-fous sur une route, la route de notre vie. Il nous permet de rester sur les rails, on va dire, à travers, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, sur les côtés des routes. Là. Voilà. À cela, donc Jésus est venu, Dieu est venu à notre rencontre en son Fils Jésus-Christ, et lui, il est venu non pas abolir la loi, mais l'accomplir. Donc autant dire que ces 10 commandements restent d'une validité absolue, et nous sommes invités à l'accomplir avec Jésus, et Jésus, de fait, nous fait passer des étapes étonnantes qu'on n'aurait pas pu soupçonner à première vue. Puisque déjà, en vivant selon la loi naturelle et selon la révélation de l'Ancien Testament, on pouvait déjà rendre grâce à Dieu de tout ce qu'on pouvait faire de bien et d'éviter le mal. Alors, je passe sur le péché, parce que vous savez ce que c'est. Alors c'est sûr que quand on entend les petits commandements, puis quand j'égrène, je ne sais pas comment, ça, on se dit, finalement ça donne des idées pour les confessions. Voilà, en fait, en tout cas, voilà. La loi de l'Ancien Testament a le gros avantage, et saint Paul le dit clairement, c'est de révéler le péché. C'est-à-dire, il met devant nous, parce que de fait, on se dit, ah, tiens, ça aussi, c'est pas bien. Enfin, parce qu'on s'habitue, hein. On s'habitue, hein. La médisance, par exemple, on peut prendre. C'est tellement rigolo qu'on peut tellement bien s'habituer que, finalement, on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de faire du mal, en train de détruire les gens. Saint Jacques est très sévère là-dessus. Et donc le Seigneur, il est venu nous sauver de tout ça et nous proposer de ressortir de cela en nous proposant une perspective encore plus belle. Vous savez qu'aussi dans les péchés, il y a deux types de péchés, les péchés mortels et les péchés véniels. C'est important de se le dire parce qu'il y a les péchés mortels qui entraînent une mort spirituelle, une séparation d'avec Dieu. Et donc là, c'est tragique hein, pour les personnes qui vivent cela. Et puis, il y a les péchés véniels, qui sont souvent en fait, les péchés les plus communs, en fait, ceux que nous faisons sans doute le plus facilement, je pense, plutôt que les péchés mortels. Mais les péchés véniels aussi abîment notre relation à Dieu, compliquent notre relation à Dieu, nous empêchent de recevoir la grâce de Dieu hein, de façon plus pleine, engendre aussi la tiédeur dans notre vie, hein, parce que quand on s'habitue à certains comportements, ben en fait, c'est toute notre vie, même notre relation au Seigneur, tout ça qui en est touché. Voilà. Alors, comme dit le catéchisme, ce péché ne prive pas de la grâce sanctifiante ni de la charité, ni du paradis, hein, ni de la béatitude éternelle. Mais il nous déroute, on va dire. Donc le Seigneur, en venant, va nous enseigner et surtout va nous donner l'Esprit Saint aussi, hein, je fais vite, hein, va nous donner l'Esprit Saint, va nous sauver, va nous donner l'Esprit Saint, il va nous donner de nouvelles perspectives. Donc c'est la loi du Nouveau Testament, révélée en Jésus-Christ, qui va être surtout développée dans le discours sur la montagne, donc je vous invite à le relire, et puis qu'on a encore plus synthétisé, que Jésus a encore plus synthétisé dans le discours des béatitudes. Alors je reprends les 8 béatitudes de celle de Matthieu parce que c'est plus facile. Voilà. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi, soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Voilà, une fois qu'on a ça, on a tout. Donc après, il s'agit d'approfondir, je vais simplement préciser une chose, c'est que la première des béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, c'est celle qui est au présent. Il faut commencer par s'attaquer à celle-ci. C'est dans le chemin de la pauvreté et de la petitesse que l'on est réceptif de façon forte à la grâce de Dieu, à l'Esprit Saint et à ce qui nous inspire. Alors on peut constater trois choses dans ces béatitudes. D'une part que les exigences sont très grandes, elles sont plus grandes que celles de la loi de Moïse, que l'Évangile va bien au-delà de l'ancienne loi. Dans l'Ancien Testament, on dit « tu ne tueras pas », dans le Nouveau Testament, on va dire « heureux les doux ». Alors, je vous invite aussi à relire un passage que je crois qu'on lisait ces derniers jours dans les lectures, dans l'Évangile de la Messe. Je vous invite à relire ça parce que on lisait à la messe parce que Jésus reprend en fait les commandements et il dit on t'a dit de ne pas tuer, et bien celui qui insulte son frère, voilà, il est sévère. On comprend que Jésus nous invite à avancer. Il refuse, voilà, pour prendre l'exemple du ne tueras pas d'un côté, heureux les doux de l'autre dans le Nouveau Testament. Les disciples de Jésus refusent totalement la spirale de la violence. Tu ne voleras pas et heureux les pauvres. Les disciples de Jésus sont invités à donner même de son nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à être riche, voilà, etc. Donc la sainteté du disciple de Jésus, ce n'est pas simplement de respecter la lettre de la loi, de s'en tenir à des pratiques extérieures comme on aurait pu le comprendre pour les 10 commandements, simplement on respecte la lettre, mais c'est de convertir au plus profond son cœur. Puisque les béatitudes, si vous les lisez, je ne sais pas comment vous êtes, mais quand on les lit au premier abord, parfois ça ne dit pas grand-chose, parce qu'en fait c'est un travail de méditation du cœur, d'intériorisation. En fait, la loi est invitée à être intériorisée, fécondée par l'action de Saint-Esprit. Encore une fois, la prière est indispensable pour vivre ce cheminement. Donc cette loi est exigeante, mais rien n'est impossible. Jésus le dit lui-même. À Dieu, rien n'est impossible. Donc il donne ce qu'il faut, il donne l'Esprit Saint. Et c'est là que, d'un côté, on parlait tout à l'heure, très brièvement, du péché, mais là, il faut parler de la grâce. En fait, c'est que Jésus, il nous donne la grâce, l'Esprit Saint, la grâce, qui va nous enseigner, qui va nous guider, qui va amplifier notre chemin moral, ce qui fait que on peut dire qu'il n'y a jamais de limite dans notre cheminement moral chrétien. Un saint, il ne peut pas dire ça y est, moi j'ai fait la liste des trucs, je suis saint. D'ailleurs, on ne vous trouverait jamais un saint qui dit ça, évidemment, parce qu'en fait, on peut toujours faire mieux et plus avec la grâce de Dieu. Le « avec la grâce de Dieu » est essentiel, parce que sinon c'est désespérant, et puis c'est pas ce que Dieu veut, mais c'est avec lui qu'il faut le faire. Et même, dans la théologie catholique, la grâce de Dieu est première. C'est-à-dire qu'en fait, notre libre arbitre est total, notre action, notre libre est total, donc si nous disons non, Dieu peut rien faire. Par contre, dès qu'on s'ouvre à la grâce, et souvent on s'ouvre progressivement à la grâce de Dieu, ça prend du temps, c'est de l'imprégnation progressive, c'est au fur et à mesure, on prend parfois une image, c'est que, vous savez, on finit par ressembler aux amis que l'on fréquente. Si on a des amis qui sont bons, qui nous donnent de beaux exemples, et petit à petit, si on les fréquente régulièrement, on finit par leur ressembler. Avec Dieu, c'est la même chose, en mieux, bien sûr, parce que c'est un ami vraiment parfait, mais c'est à force de fréquenter qu'on s'ouvre à sa présence, à son action, et finalement, on devient comme lui. Parfait comme votre Père Céleste est parfait, saint comme votre Père est saint. Hein, Lévitique pour l'un, et puis Évangile pour l'autre. Un jour, un pharisien demande à Jésus, « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus répondit, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand commandement, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Donc c'est la clé même. C'est un résumé. Jésus résume. Ça se faisait beaucoup à l'époque de Jésus. Dans le judaïsme, ça se fait, cette question-là. Il se la pose régulièrement. Nous, Jésus nous l'a donné la réponse, donc on se la pose même plus, mais on l'oublie quand même. Un peu dommage. Donc voilà, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, de cela dépend toute la loi et tous les prophètes. Tel est le principe fondamental qui régit la vie morale chrétienne. Voilà. Un autre élément qu'il nous faut ajouter, avant de conclure rapidement, c'est que l'obéissance à la loi divine, donc non seulement la loi de l'Ancien Testament naturel, confirmée par l'Ancien Testament, éclairée par l'Ancien Testament, et la loi que Jésus nous invite à vivre, la loi de la sainteté, qui n'a pas de limite, on va dire, en plus, ce chemin, c'est un chemin de liberté. C'est un chemin de liberté. Ceux qui étaient là la semaine dernière, le père Parra a donné un bel exemple. Il a dit, par notre liberté, on peut librement choisir de boire une bouteille d'alcool. Alors je vais préciser, parce qu'il n'était pas précis tous les jours. Et puis de l'autre côté, de whisky. Et puis de l'autre côté, on peut tous les jours prendre le même temps pour jouer au piano. D'un côté, avec l'alcool tous les jours, on va perdre notre liberté, on va devenir esclave, on va devenir addict. De l'autre côté, on va, au contraire, progressivement faire des gammes, s'améliorer, être capable de jouer des pièces musicales pour la gloire de Dieu et de nos frères, pour la joie de nos frères, voire même un jour composé ou improvisé. Dans un côté, il y a une liberté qui grandit, qui augmente. De l'autre côté, une liberté qui se perd. Et on voit bien que, voilà. Or, ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est déployer notre liberté en suivant, donc, parce que de fait, dans le piano, à la différence de l'alcool, il suffit d'acheter les bouteilles, enfin, il faut avoir l'argent pour le faire. Il n'y a rien à apprendre. De l'autre côté, de fait, il faut travailler. Il y a un travail à faire sur nous, une discipline à se donner, apprendre les règles, apprendre le solfège. Donc il y a tout un travail qui, le solfège, on pourrait dire, c'est les lois, les commandements du Seigneur. Et ces commandements du Seigneur vont déployer notre liberté, agrandir nos capacités d'aimer et de servir. Voilà. Donc c'est ce que le Seigneur nous propose. Voilà, et je vais terminer par ce que dit l'Église. Donc l'Église, je ne sais pas si vous le savez, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était important qu'on le rappelle à cette occasion, à l'occasion de ce petit enseignement, c'est que l'Église propose 5 commandements que l'Église a discernés depuis longtemps et qu'elle nous propose à notre méditation, à notre action. Le premier commandement, alors vous le trouvez dans le compendium de l'Église catholique, hein. Donc, le premier commandement, c'est le dimanche et les autres jours de fête d'obligation. Donc, c'est l'Ascension en France, parce que ça dépend des pays. Hein. Fête d'obligation, c'est l'Assomption pour la France, l'Assomption de la Vierge Marie, la Toussaint, Noël. Les fidèles sont tenus par obligation à participer à la messe et à s'abstenir d'œuvres servile, donc comme le dimanche. Donc le dimanche, ce jour-là, donc de participer à la messe, premier commandement. Deuxième commandement, tout fidèle, alors il faut quand même préciser que c'est les commandements à minima. Donc, c'est l'Église qui nous dit qu'il faut faire au moins ça, parce que vous allez voir la suite. Deuxième commandement, c'est tout fidèle est tenu à l'obligation de se confesser de ses péchés au moins une fois par an. qui fait le moins peut faire le plus. On peut faire plus. Mais voilà. Deux, trois. Alors, c'est lié aussi à l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, la question de la confession une fois par an est particulièrement d'actualité. Par contre, la question de la communion l'est beaucoup moins, vous allez voir, puisque le troisième commandement, c'est « Tout fidèle est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion au moins une fois chaque année à Pâques. » C'est pour ça que dans certains coins, bon, c'est de moins en moins vrai, mais dans certains coins, on voit des gens qui se confessent à l'approche de Pâques, qu'on ne voit jamais, puis qui vont faire leur Pâques, comme ils disent. Donc, alors aujourd'hui, on communique quand même beaucoup de façon globale. Donc, ce troisième commandement est moins fort, mais par contre, le deuxième est particulièrement fort, parce que beaucoup ont oublié de se confesser. Quatrième commandement, au jour de pénitence fixé par l'Église, les fidèles sont tenus par l'obligation s'abstenir de viande et d'observer le jeûne. Donc, ça peut être un peu surprenant, la question de la pénitence, mais il faut se souvenir de Jésus qui dit dans l'évangile de Luc, « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. » Au moins, c'est clair. L'Église nous demande de faire pénitence, donc il y a des sacrifices à vivre. Alors, c'est très léger en Église occidentale, latine, hein, il suffit de voyager un petit peu, puis c'est très sympathique de découvrir ce que font les autres. Donc le mercredi décembre et le vendredi saint, on est invité au jeûne, tant que notre santé le permet, hein, à partir d'un certain âge, je ne me souviens plus quel âge, dans le droit canon, mais aussi, tant que la santé le permet, il faut le faire. Et puis les vendredis de carême et les deux l'année, eh bien, on est invité à l'abstinence, c'est-à-dire à faire quelques sacrifices de viande, et ou d'autres choses, mais en tout cas des vrais sacrifices. Pas être simplement en disant « Oui, je fais des sacrifices globalement, mais en fait, on ne sait plus trop ce qu'on fait et on fait plutôt rien. » Voilà. 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 Et le cinquième commandement, les fidèles sont tenus par obligation à subvenir aux besoins de l'Église. Ce cinquième commandement. J'ai osé, parce qu'on m'a dit « Si, si, il faut le faire, il faut le faire. » J'ai osé le mettre dans le courrier pour la collecte paroissiale. Ça a plutôt bien marché, puisque les fidèles ont été généreux. J'en parlerai bientôt, mais les fidèles ont été généreux. Je ne sais pas si c'est lié à ça, d'ailleurs, mais peu importe. En tout cas, voilà, aider à la vie de l'Église financièrement fait partie des cinq commandements, puisque l'Église, normalement, ne vit pas d'autre chose que des dons des fidèles. Toujours. Cette Église est un peu une exception, puisqu'elle a été construite par les deniers de l'État, donc c'est les fidèles, mais passant par l'État. Donc parmi ces gens-là, il y avait des gens qui n'étaient peut-être pas chrétiens, hein, qui ont versé. Mais sinon, d'une façon globale, toutes les églises ont été construites par les biens des fidèles. Hein, c'était les curés du coin, les machins, et puis et on se donnait de la peine. Alors c'était, il y avait aussi les seigneurs qui étaient riches, qui donnaient beaucoup, les autres donnaient peu, mais voilà. Toujours l'Église a fonctionné comme ça. Et elle fonctionne toujours comme ça. Voilà, je termine pour de bon. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible, dit Jésus dans saint Matthieu, pour dire qu'on peut vivre les exigences de l'Évangile. Et puis, il nous invite à croire en la miséricorde aussi, dans nos incapacités à vivre les choses. Le sacrement du pardon s'est développé grâce à cette miséricorde de Dieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le poids du fardeau. » C'est la phrase qui est d'ailleurs « Et moi, je vous soulagerai. » Qui est d'ailleurs près du local d'accueil. C'est la phrase que j'ai demandé qu'on mette en imprimé. Vous regarderez bien. « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. » Donc suivre ses commandements. « Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le soulagement de votre âme. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Voilà. Nous sommes tous orientés grâce à tous ces commandements de Dieu et de l'Église. Nous sommes tous orientés à devenir des saints comme Dieu est saint et à croire que nous pouvons l'être. Merci.